Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre nouveau rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et bien oui, chaque semaine on sera là pour parler de l'actualité, des sorties, de nos coups de cœur et aussi de nos coups de gueule avec des experts et des spécialistes du jeu vidéo. Et pour cette première, et bien figurez-vous, j'ai un casting de choc avec la charmante déjà Carole Quintaine. Bonjour Carole.
Bonjour, comment ça va Mélinda?
Mais écoute, ça va très très bien, je suis ravie que tu sois là pour cette première.
Mais moi aussi. Voilà. Et j'ai hâte de parler de l'E3.
Et bien ça va être super. Oui. Carole, créatrice de contenu, et face à toi, Aymeric Lallet, rédacteur en chef de jvjeuxvideo.com. Bonjour Aymeric.
Bonjour, ça va bien?
Mais écoute, bon. C'est pareil, je suis ravie que tu sois là pour... Éponger les plâtres avec moi.
On est bien, entouré et on a des bons sujets, je crois.
Et on a sacré sujet. Ouais. Hein. Bon, justement, on va commencer tout de suite avec l'actu à chaud, très à chaud. Bon, j'avoue que pour une première, c'est pas le sujet que j'espérais aborder avec vous. L'annulation de l'E3 2023, le grand salon du jeu vidéo, c'est tombé le 30 mars dernier par un petit tweet qu'on attendait quand même un petit peu pour annoncer Readpop et l'ESA qui organisent le salon, le grand salon annuel du jeu vidéo de Los Angeles pour dire que la version en ligne digitale et la version physique espérée étaient tout simplement annulées. Voilà, un petit message. Alors, on ne peut pas faire plus court.
Oui, c'est efficace.
Efficace pour dire ça. Carole, ce n'était pas vraiment une surprise finalement.
Mais non, ce n'était pas une surprise parce qu'on sera d'accord pour dire que depuis 2019 déjà, c'était plus du tout la même chose. On a Jeff Keighley avec son Summer Game Fest qui cartonne. Et quand tu vois qu'il y a tous les constructeurs et éditeurs principaux qui commencent à annoncer qu'ils ne vont pas y aller parce que, effectivement, quand tu peux contrôler ta communication et que ça ne te coûte pas un bras parce qu'aller à l'E3, ça coûte cher, forcément, hein, les PlayStation, Microsoft, Ubisoft et compagnie préfèrent faire les choses de leur côté. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Ça marche très bien comme ça, même si on perd un petit peu le côté humain, même si on a vécu des périodes fabuleuses à l'E3, mais... On s'y attendait, c'est un peu triste, mais je pense que c'est le déroulé logique des choses. On tend vers un média qui, de plus en plus, devient virtuel.
C'est pour ça.
Et tu le disais, ce n'est pas une surprise. Et effectivement, ce qui est triste, c'est que l'E3, c'était un marqueur de l'industrie. Comme d'autres, il y en a quelques autres. Celui-là, c'était le plus grand marqueur. Et c'est vraiment normal par rapport à l'évolution de la communication qu'on arrive à cette conclusion-là, entre guillemets, qui n'est pas forcément une conclusion, d'ailleurs, puisque peut-être qu'il y aura encore d'autres E3, mais c'est sûr que cette année, ce n'est pas le cas. Finalement, depuis 2010, les choses ont énormément changé. On va sûrement, j'imagine, en parler pour retracer un petit peu l'historique de l'E3, parce que peut-être qu'il faut expliquer exactement ce que c'est.
Justement, Aymeric, avec ton beau t-shirt, t'es quand même la meilleure personne pour faire ça.
Aymeric, c'est quoi l'E3?
Racontez aux gens qui se sauraient, parce que nous, évidemment, on y est déjà allés, on sait ce que c'est. Oui. Expliquer fondamentalement ce qu'est l'E3.
Alors l'E3, c'est un endroit où toute l'industrie du jeu vidéo se concentre pendant une période de 3 jours. Et ce que les gens ont vu de l'E3, c'est le moment où on voit les nouveaux jeux, les nouvelles technologies, etc. Mais ce n'est pas que ça, en fait. C'est aussi un endroit où il y a du training, de l'échange d'informations et de l'échange commerciaux sur comment ça va se passer avec les prochains jeux et les prochaines sorties. Typiquement, ça peut être un acheteur de jeux vidéo qui va venir voir un constructeur ou un développeur qui va dire « je vais t'acheter tant de copies de ton jeu à la sortie ». Donc du coup, on lui montre pour qu'il soit convaincu et du coup, on retrouve le jeu dans les magasins après. Donc tout ça, il y a une partie émergée et une partie immergée de l'iceberg à l'E3 et ça représentait tout ça, en fait, l'E3.
C'était pas que des tests de jeux et des trailers.
Exactement. Et effectivement, le grand public, lui, le connaît comme ça parce que c'est aussi un moment festif qui marque l'année. C'est le marqueur le plus fort. Et effectivement, le déclin qu'il a subi, c'était aussi, alors c'est important de le dire, c'est aussi un moment où on se rend compte quelle est la tendance pour tel ou tel constructeur ou éditeur. Est-ce que tu as réussi ta conférence? Est-ce que tu as un bon line-up, donc de bons jeux qui arrivent ou de bons produits qui arrivent sur les 6 prochains mois, par exemple, même au-delà pour l'année suivante, puisqu'on parlait de la fin de l'année pour les 6 prochains mois. Et ou alors, est-ce que tu t'es loupé? Ouais. Parce qu'il y a des très beaux loupés à l'E3. Et c'est aussi spectaculaire pour toute l'industrie. Et tout ça, on va le perdre. Et c'est là que c'est triste, en fait. Après, il y a d'autres manières de communiquer, comme le disait très bien Carole, qui font qu'aujourd'hui, elles sont plus modernes, mieux contrôlées par chacun des acteurs de l'industrie, alors qu'avant, il fallait se regrouper au même endroit.
Et ça permet aussi, comme je le disais, de maîtriser sa communication. Parce que quand l'E3 arrivait, c'était il faut sortir le trailer, il faut sortir ceci, cela, il faut être à l'heure, il y a Microsoft en face, donc il faut répondre, il y a PlayStation en face, il faut répondre. Et ça, quelque part, ça foutait une pression. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu la Coupe du Monde du jeu vidéo et ça nous réunissait.
À des scores fabuleux, des 1-2 pendant les temps de conférence. Il faut comprendre
que magnifique.
Les acteurs les plus importants faisaient leurs conférences en amont de l'E3. Mm. Donc, il y a généralement Microsoft qui ouvrait la danse, après, tu avais PlayStation, après, tu avais Nintendo, etc. Et si tu veux, souvent, ils se répondaient entre eux.
Bah, c'était ça. Oui. Alors, pour rappeler aux gens, en fait, quand à Los Angeles, avant l'ouverture officielle du salon, il y avait une journée de conférence. Le matin à 9h, c'était Xbox.
Oui, Microsoft.
Microsoft. Il y avait après Electronic Arts, Ubisoft. Mais surtout, la journée se clôturait avec la conférence PlayStation. Donc, forcément, PlayStation avait vu ce qui était arrivé à son concurrent le matin. Donc, ça nous a quand même donné lieu à des passes d'armes qu'on ne verra plus.
Alors non, je pense qu'on les verra plus. Après,
Ça se tacle quand même pas mal.
Le milieu du jeu vidéo, c'est un milieu qui est très particulier dans le sens où c'est encore très bon enfant et ils se répondent entre eux, chose que tu n'as pas dans d'autres industries. Donc ça, c'est quand même très marrant. Donc on en aura encore. Maintenant, aussi rapidement, c'est assez incroyable. On a notamment l'événement de l'arrivée de la présentation de la Xbox One en 2013, le 3-2013, où tu as Microsoft qui explique qu'il va falloir une connexion permanente ou semi-permanente, mais bref, qui posait un problème puisque du coup, tu devais être connecté pour pouvoir profiter de tes jeux, même en physique, ça posait plein de problèmes. Et du coup, tu as Sony qui répond 24 heures après ou 12 heures après.
Le soir même.
Je crois que c'est même, deux grands pontes de Sony qui s'échangent un jeu en disant nous chez PlayStation on s'échange les jeux comme ça et on n'a pas besoin d'une connexion permanente.
Ils échangent un
jeu physique et donc ça aussi ça avait un impact sur tout le marché du jeu d'occasion. Donc tout ça c'est très long à expliquer, mais en gros c'est une réponse du berger à la bergère dans la foulée et c'est spectaculaire. Quand tu suis l'industrie, c'est spectaculaire.
Mais c'est ça, et derrière il y a eu quand même Microsoft qui a joué la carte de la rétrocompatibilité qui était de dire par rapport à PlayStation, vos anciens jeux, vous pourrez y jouer sur votre nouvelle console, qui est aussi une réponse. Oui, ces moments-là qu'on fait aussi le 3, parce qu'on se souvient de Régis et mes fils quand il est arrivé.
Régis et mes fils, qui est arrivé
en 2004.
C'est 2004, j'y étais.
Et qui arrive en sur 7, c'est la première fois qu'on le voit, et qui dit Je vais botter des fesses.
Je suis là pour prendre des noms et botter des fesses.
Voilà.
Très bien.
Mais c'est son autre matière. Ça, c'était quand même aussi un moment fort de l'industrie, et ça posait des personnes.
C'est un show, en fait, vraiment. C'est un show à l'américaine, et du coup, c'est un spectacle. Il y a des loupés, il y a des réussites, et des événements absolument incroyables qu'on a tous vécu. Et oui, ça, c'est un marqueur de est-ce que tu as réussi ou tu as raté ton E3. C'était le moment important, et ça donnait la tendance de l'année pour chaque éditeur et chaque développeur.
Et c'était les frissons humains. Moi, je me souviens encore de l'annonce de FF7 Remake.
Oui, bien sûr.
Je veux dire, dans la salle, les gens qui se levaient, qui criaient, qui applaudissaient, rien que d'en parler, ça fout les frissons. Voilà, c'est vrai que ce côté humain, avec des Nintendo Direct like, puisque c'est devenu un petit peu la manière de le dire, on a perdu ça. Et ces moments sur scène, effectivement, avec des Miyamoto et compagnie, c'est plus du tout la même époque. Alors après, on y revient tout doucement avec Jeff Keighley. On a
justement
alors avec un public, ça fonctionne quand même.
C'est ça que j'allais vous demander. Il y a quand même quelque chose. Le 3 n'est pas juste un événement qui coûtait cher et qui fait que c'est ça qui paye aujourd'hui. Il paye aussi le fait que depuis 2020 et le confinement, le Covid, il y a quand même un acteur qui a émergé sérieusement, qui est Geoff Keighley, qu'on connaissait surtout pour la cérémonie des Game Awards, donc les Oscars du jeu vidéo, qui lui a complètement pris la main sur le mois de juin. Est-ce que ça, c'est vraiment ce qui coûte cher cette année, notamment à l'E3, qui a déjà été annulé l'année dernière, rappelons-le.
Je ne partage pas forcément cet avis, dans le sens où je pense que ceux qui ont vraiment précipité la chute, entre guillemets, de l'E3, c'est plutôt les constructeurs qui ont décidé de ne plus venir. Moi, c'est mon avis en physique, notamment pour l'histoire d'argent, mais aussi parce qu'ils ont appris à communiquer différemment. Tu parlais de Nintendo tout à l'heure, c'est eux qui ont ouvert le bal. On fait nos conférences, et donc on les fait hors de ces événements importants de l'E3, et on communique tout le long de l'année. En fait.
C'est toujours la faute de Nintendo, de toute façon.
Nintendo faisait ça le matin de l'ouverture du salon. Ils n'étaient pas non plus complètement à contre-courant quand ils faisaient Direct.
Mais avant, ils ont aussi sorti des Nintendo Direct avant ça, en fait. Ils étaient complètement en période de l'E3. Et ils ont été suivis par les autres qui sont PlayStation, enfin Sony et Microsoft. Et du coup, effectivement, il y a le moment où il fallait passer au dématérialisé a peut-être été un peu loupé. Enfin, la communication en live, pas physique, a été un peu loupée par les responsables de l'E3. Et c'est là que Geoff a pu rentrer dans la brèche et proposer aussi des tarifs, j'imagine, moins élevé pour pouvoir passer chez lui.
C'est vrai que c'était des millions, on rappelle aux gens qui ne sauraient pas, faire un stand à l'E3 où vont venir des médias, venir faire du business, c'était un stand qui coûtait des millions.
Ah mais ça coûtait extrêmement cher. Et moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors plateau, je te disais, tu as un t-shirt de l'E3 2000. Moi, mon premier E3, c'est 2013, très bel E3, parce que lancement des nouvelles consoles, on parlait de ce fameux couloir où tu as
Xbox d'un côté,
Xbox, PlayStation de l'autre qui se font face. Et c'était fantastique. Mais c'est vrai qu'on a des souvenirs de fou. Mais c'est vrai que c'était... On sentait qu'il fallait les moyens quand même d'y être. C'était très humain, c'est très bien, mais il fallait les moyens. Aujourd'hui, Geoff Keighley, il n'y a pas besoin d'avoir un stand. T'es présent sur la Summer Game Fest, qui effectivement s'étale vachement, parce que finalement, c'est pas si long. Hein. C'est à peu près 3-4 jours en termes de conférences, pareil. Mais c'est que ça s'étale derrière,
officiellement.
Finalement.
Microsoft, qui fait sa conférence Xbox le 11... juin, le dimanche 11 juin, avec un événement pour le lancement de Starfield derrière, et Ubisoft qui sont derrière, qui fait ça le 12, ne sont pas officiellement sous bannière.
Non.
Ils ne sont pas sous bannière.
Non.
Et Geoff Keighley nous avait promis aussi un événement physique dont on n'a pas encore entendu parler. Est-ce qu'il attendait que le 3 se casse la figure pour ça ?
Je pense qu'il attendait ça, que le 3 se casse la gueule. Point à la ligne, il l'attendait. Il l'a déjà clairement montré sur Twitter. C'est pas très élégant.
Il y a un historique.
Il y a un historique, oui. Je pense qu'on ne sait pas tout, mais voilà, on sent qu'il y a quand même un, voilà, litige.
Il y a une petite animosité. Après, il prend une place qui est à prendre. Il a communiqué comme il fallait dès le début, lui, et ça coûtait effectivement beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, non, pour moi, il y a une logique. Après, moins il y a d'événements comme ça, moins c'est bon pour l'ensemble de l'industrie. Moi, je suis très content qu'il y ait des événements comme la Gamescom, comme le 3, comme le CES. Bon, c'est autre chose, mais voilà. Et le Tokyo Game Show, c'est important qu'il y ait d'autres marqueurs, que tout ne soit pas focalisé au même moment. Et ces quatre événements importants de l'année, c'était des piliers pour tout le monde. Ça annonçait les 3, les 6 prochains mois. Aujourd'hui, avec un E3 qui disparaît, je pense qu'on perd quelque chose de peut-être moins fort pour le grand public, mais très important pour l'industrie et le business de l'industrie. Et ça, c'est peut-être dangereux pour les jours plus tard.
Ce sera le mot de la fin sur l'E3. On a quand même fait déjà un bon passage en revue. On verra donc ce que donne le Summer Game Fest de Geoff Keighley. Mais on continue à parler de jeux, quand même. Je voudrais qu'on parle de Resident Evil 4, Resident Evil 4, en français approximatif, qui cartonne depuis sa sortie fin mars, qui est un remake. Rappelons-le.
Tout à fait.
Il y a depuis l'année dernière une folie des remakes de jeux. On a eu Dead Space, on a eu The Last of Us, devenu The Last of Us Part 1.
Tout à fait.
Pour accompagner la série beaucoup.
Évidemment.
Quelle est cette tendance ? Et alors surtout, on va commencer avec Carole, qui vit jour et nuit pour Resident Evil 4 et qui va nous faire un petit pitch pour les gens qui ne sauraient pas de quoi ça parle.
Resident Evil.
Resident Evil 4. Eh bien, Resident Evil 4, c'est un jeu qui était sorti à l'origine en 2005. On y incarne Léon Kennedy, GameCube.
Nintendo GameCube.
GameCube. C'est sorti aussi la même année, mais un petit peu plus tard sur PS2. Moi, je l'ai fait sur GameCube et c'est vrai que c'est un jeu qui a fortement marqué l'industrie parce que c'est un jeu qui a révolutionné le survival horror, c'est-à-dire qu'il allait beaucoup plus vers l'action. C'est le dernier jeu chapeauté par Shinji Mikami, donc le papa de Resident Evil, avant de quitter Capcom. Il est arrivé avec sa caméra à l'épaule et effectivement un rythme et une dimension autre que les Resident Evil précédents. Donc là, on revient avec un remake qui, effectivement, apporte tellement au jeu que c'est le même jeu, mais c'est plus la même chose à la fois. C'est-à-dire qu'on a une reconstruction qui fait que les joueurs qui l'ont fait en 2005 le reconnaissent. C'est le même jeu, c'est RE4. Mais c'est plus du tout la même chose.
Mais on joue pas la même chose.
Gameplay moderne, évidemment. De nouvelles mécaniques de gameplay. On peut faire de l'infiltration. Ils ont ajouté notamment un couteau qui peut se casser désormais. Donc ça ajoute encore à la dimension survie.
On peut contrer beaucoup d'ennemis aussi.
Mais on peut surtout tirer et courir en même
en
temps.
En même temps.
Gameplay, moi, ce qui a été qui m'a énervé.
C'était presque injouable en 2005.
C'était insupportable. Il fallait choisir.
Très inspiré d'ailleurs. On peut le dire, même la gestion des armes, le fait de pouvoir switcher d'armes en même temps. Très inspiré de The Last of Us. Finalement, on peut faire de l'infiltration. C'est un jeu qui va beaucoup plus loin, même dans l'écriture des personnages. C'est pour moi l'un des plus grands jeux de tous les temps. Resident Evil 4, très clairement, il a révolutionné et inspiré tellement d'autres jeux derrière. On pourrait citer Gears notamment.
Bien sûr.
Et c'est vrai que là, ça surcartonne. Et chapeau, parce que Capcom, en termes de remake,
Ils font des bonnes choses.
Bah, ils arrêtent
pas.
Ils
se fichent pas de la gueule du monde. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre avec le Resident Evil, c'est que le premier était une révolution. Donc dans le survival horror, comme tu as dit, le jeu de survie horrifique. Et derrière, Resident Evil 4 cassait les propres codes de Resident Evil pour créer quelque chose de nouveau. Et exactement, notamment. Et ce qui se passe avec cet épisode-là, c'est qu'ils l'ont refait. Ça, la même forme. Le même goût, j'ai envie de dire, mais les sensations sont pas les mêmes. Et c'est ça qui est très fort. Et le jeu est beaucoup plus dynamique, efficace, plus moderne en fait. Ils ont réussi à moderniser vraiment leur jeu, ce que tous les remakes n'arrivent pas à faire. Pour le coup, Dead Space avait réussi, mais à mon sens. Mais là, il y a des différences qui sont majeures. Tu en parlais en détail il y a quelques secondes. Là, on les ressent dès qu'on joue. Et ça, ça fait la différence. Au-delà du scénario qui a aussi un tout petit peu changé.
Ils ont apporté c'est vrai, ne spoilons pas, mais ils ont changé pas mal de petites choses. La finalité reste la même, mais comme tu dis, c'est la même saveur, mais en plus
c'est décuplé, c'est plus moderne, c'est plus agréable, et ça va parler aux nouvelles générations qui n'ont jamais joué celui d'avant, mais aussi à ceux qui ont joué à l'ancienne version, parce que les différences sont d'importance et suffisantes pour justifier l'achat.
Qu'est-ce que vous pensez de cette frénésie de remake ? Parce que Call of Duty aussi y est allé. On a eu même des Pac-Man qui sont des choses. Sonic a repackagé ses premiers épisodes.
FF7
Alors, Final Fantasy, n'en parlons pas. Remake. Tous les épisodes vont y passer, de toute façon.
Il y a très forte chance, oui.
ce serait comme Resident Evil, hein, ils ne vont pas s'arrêter
oui,
là.
Oui, c'est sûr. Oui, mais il y a déjà des rumeurs pour le 5 et le 6. Donc,
ouais. Final Fantasy, en plus, ils avaient commencé de toute façon dès les premiers opus déjà sortis. Mais qu'est-ce que ça dit, selon vous ?
Le jeu vidéo est une époque, c'est une industrie qui est très jeune. Et ça s'est renouvelé très rapidement au début. Et il y avait des nouveaux concepts, etc. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des nouveaux concepts. On a des choses très nouvelles, comme par exemple la VR ou des choses comme ça, qui ont beaucoup de mal à percer. Donc, c'est aussi intelligent de miser sur ce qu'on appelle des jeux qui ont déjà fait leurs preuves et de les remettre au goût du jour. Et au final, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais comparativement au nombre de jeux sortis depuis les années 90, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et c'est des jeux qui sont majeurs, donc c'est important pour les jeunes générations de pouvoir découvrir ça. La personne qui a 15 ans aujourd'hui n'a pas joué à Final Fantasy VII, et c'est très bien qu'elle puisse jouer à un jeu comme ça en version moderne. Ah oui. Donc ça a un intérêt. Après, effectivement, il y a des remakes faciles, c'est vrai, quelques-uns, et c'est vrai que ça dessert un petit peu cette dynamique. Maintenant, il y a certains éditeurs aussi qui en abusent un petit peu pour faire de l'argent, et c'est normal, mais il faut aussi qu'il y ait de la nouveauté régulièrement. Et c'est vrai que là où c'est fort, c'est qu'il y en a certains qui font des remakes et qui mettent des éléments complètement nouveaux dans leur jeu. C'est un peu le cas de Resident Evil 4.
Et Dead Space, c'était un peu ça. Alors,
c'était un peu plus fidèle, un peu plus hommage. Hein. Enfin,
Dead Space c'est un mélange du 1 et du 2 en plus.
Voilà, tout à fait, avec de nouvelles mécaniques, effectivement, qui avaient été implémentées dans le 2. Mais c'est vrai que Resident Evil le fait très bien parce qu'on a vraiment de nouveaux pans de scénario, comme c'était le cas d'ailleurs dans le 2002, Rebirth, qui était le remake du 1. Et c'est très bien parce que pour rester sur Resident Evil, on a aussi la série qui continue à avancer, puisque Resident 9, à un moment donné, ça va arriver. Je pense que la série a de très, très beaux jours devant elle. Il y a la version VR, évidemment.
Ou pas. C'est important de le dire aussi. Tu peux aussi jouer.
Oui, oui, complètement.
On peut ne pas y jouer parce que ça fait extrêmement peur.
Alors, ça fait très, très peur. Moi, je trouve que c'est très efficace, mais c'est vrai que le remake de Dead Space est aussi fabuleux, peut-être un peu plus, plus sage, mais avec de nouveaux éléments qui ont rendu l'expérience encore plus oppressante. Dead Space, c'était le sound design, ça allait. D'ailleurs, Dead Space, inspiré de quoi ? Resident 4.
Mais c'est ça.
Évidemment, parce qu'il est arrivé en 2008, Dead Space, et
le remake est 4, très bon.
Ah oui,
sorti en début d'année, très bon.
Et Silent Hill 2 va arriver aussi.
Sûr.
Resident a inspiré beaucoup de studios qui se sont dit, attends, nous aussi on a des bons survival horror.
Non, mais tout à fait. Et après, Silent Hill, c'est vraiment un autre
style.
C'est un autre style de peur. Mais,
C'est pas un survival horror, effectivement.
Ouais, c'est un tout petit peu différent, c'est dans la même veine.
Bah oui.
Cette logique des remakes, moi je trouve que c'est assez sain globalement et que ça permet de découvrir dans des bonnes conditions. Il y a des jeux aujourd'hui qui sont plus jouables, qui datent de 2000, qui sont d'excellents jeux, et c'est très bien qu'ils aient une version fraîche.
Et comme tu l'as dit, des jeunes générations qui n'ont pas fait les jeux à l'époque.
Et ça leur donne une occasion de le faire.
Qui va draguer une autre génération de joueurs.
Exactement.
Donc Resident Evil 4, c'est un grand oui à
refaire. Ah oui, à fond.
À fond.
18 sur 20 sur JV.
20 sur 20,
voilà. Vous n'avez pas d'excuses pour
pas le
faire.
Toujours dans la
démesure, mais on se connaît.
On se connaît, c'est Marseille.
Bon, on va essayer de parler de jeux nouveaux.
Oui.
Hein, un petit peu, des sorties à venir. Parce que l'industrie, elle fait aussi du neuf, mine de rien. Donc, on va passer à la partie, à quoi tu joues ? À quoi on joue, parce qu'on va jouer tous ensemble.
Oui.
Alors, moi, je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas sorti, qui va sortir bientôt, et que j'ai eu la chance d'aller prendre en main. Et oui, j'ai un peu de privilège aussi, de temps en temps.
C'est important.
Qui est le Star Wars Jedi Survivor, qui arrive en fin avril, sur toutes les plateformes possibles. Et j'ai pu y jouer 3-4 heures, mine de rien. Eh bien, honnêtement, je ne sais pas si vous aviez fait le premier, donc le Fallen Order, il y a 5 ans.
J'avais pas trouvé ça exceptionnel, moi.
C'est intéressant que tu dis ça.
Alors, c'est très bien. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de Cal Kestis, qui, pour le coup, est un personnage complètement extérieur à la saga.
Oui.
Ça se passe entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et c'est un apprenti Jedi dans le premier. 5 ans plus tard, c'est devenu un jeune homme un peu plus vigoureux, Jedi à part entière, mais qui est là pour, justement, sauver un peu l'ordre Jedi qui a été décimé. Donc, on le retrouve. Il a de la barbe, il a des cicatrices, pour qu'on comprenne bien qu'il a vieilli.
Il est beau gosse.
Alors, ça, c'est une des grandes nouveautés de la séquence. Moi, j'ai vu une séquence, donc on voit les images pour ceux qui regardent. On est un petit peu avancé dans le jeu. Il a donc le look, on peut lui faire le look qu'on veut. Son petit robot est toujours là, le BD-1, qu'on peut customiser intégralement aussi. Ça, c'est un peu une des forces du nouveau jeu. On peut tout customiser.
On peut le faire avant, mais en façon très très light.
Voilà.
Pour le petit robot, le sabre.
Pouvez le personnaliser aussi. En plus, vous allez récupérer au fur et à mesure. Je n'ai pas vu de grande différence sur le gameplay par rapport au premier. Mm-hmm. Sauf que c'est plus fluide parce qu'on a un petit peu changé de console, de génération de console. Donc c'est un petit peu forcément, ça profite un peu plus des puissances. on avance, on zigouille tout comme d'habitude, on a un sabre qui sert à ça, on a de nouveaux ennemis, on a de nouveaux alliés. Là, c'était une séquence où on était sur une planète qui s'appelle Kobo. Alors, il y a un truc qui est très drôle, c'est comme c'est une histoire originale, ils vont dans des endroits dont on a à peu près entendu parler pour les fans de la saga, mais qu'on n'a jamais vraiment visité, comme ça, comme ils nous expliquaient. On va pas se heurter aux fans qui vont nous dire « ça ressemble pas du tout à ça dans la série ».
C'est l'occasion d'aller un peu plus loin dans certains éléments
dans l'univers
sombres
étendu,
de la saga classique,
voilà,
donc c'est très bien.
On oublie souvent d'expliquer aux gens que ben, quand on prend des univers qui sont connus, les Avengers, DC Comics, tout ça, ils n'ont pas le droit de refaire, sauf si le jeu sort en même temps qu'un film, d'aller piocher vraiment tel quel dans un film, donc il faut qu'ils inventent. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Parce que là, ça nous donne un monde extrêmement ouvert où on peut se balader, qui est assez sympa, qui est assez verdoyant là, sur ce qu'on a vu. On a vu des grottes, comme on voit ici. On a vu des espaces un peu lave et des espaces verts qui sont assez réussis. Ça profite. Alors, ce n'est pas sous Unreal Engine 5, apparemment. Mm-hmm. Ils n'ont pas voulu nous confirmer, mais donc, on s'est dit que ce n'est pas ça. Sinon, ils en seraient très, très fiers, le prochain moteur graphique de haut vol. Mais c'est un peu plus beau que le précédent. On sent qu'on a quand même changé de génération. Mais ce n'est pas non plus, pour moi, à niveau d'un vrai jeu next-gen comme on pourrait attendre graphiquement.
C'était déjà le cas du premier, en fait, dans le sens où le gameplay était assez approximatif, ce qui pouvait déranger. Tout ce qui était contact entre les formes en 3D, quand tu frappes avec ton sabre ou quand tu sautes sur un rebord, c'était pas très, très clean, en fait, par rapport à d'autres jeux. Ça n'empêchait pas de profiter du jeu et de l'histoire, mais c'était pas impeccable non plus. Et ils ont gardé cette recette. Et en fait, c'est une espèce de marque de fabrique aussi qui te permet d'avoir un jeu où t'es pas toujours sûr que tu vas forcément y arriver, ça donne une espèce de côté un peu, pas aléatoire, c'est exagéré, mais un peu inquiétant quand tu combats. Et ça, je pense que c'est voulu qu'ils aient gardé ça. En fait, c'est un choix. Au début, je pensais que c'était pas réussi dans le premier, finalement, non.
C'est un choix, ils l'ont appliqué exactement dans le deuxième.
C'est un choix de gameplay et ça donne un goût à l'aventure différent.
Voilà. Alors, les sabres, on peut choisir d'avoir son sabre classique, un double sabre, un sabre long. C'est pareil, ça va permettre à chaque joueur de trouver son style. On peut évoluer selon ce qu'on préfère, avoir plus de force.
Et en fonction du type d'ennemi que tu affrontes aussi, d'après ce que
j'ai compris. Là-dessus, j'ai trouvé qu'il y avait une avancée dans les phases de combat qui sont assez sympas.
Bah, il faut quand même qu'ils aillent plus loin que le premier épisode, évidemment. Parce que sinon, effectivement, ça fait un peu 1.5.
Ça fait un peu 1.5.
Moi, c'est vrai que le premier épisode, je n'avais pas été au bout, parce que si je ne suis pas allée au bout, c'est que forcément, c'était à un moment donné, il y a quelque chose qui ne m'a pas... C'était un peu dirigiste, je trouvais que le héros était un peu fade.
Alors tu vas pas forcément être
c'est
plus emballé.
Hein.
Voilà,
voilà. Pas que le héros.
Après effectivement, il y avait une ambiance, une atmosphère. Je trouvais ça assez joli, mais voilà, en termes de gameplay, c'était assez classique. J'avais pas plus accroché que ça. Donc si tu veux, oui, hâte de poser les mains dessus pour voir un petit peu ce que ça donne, mais. Voilà, ça donne l'impression de rester un peu sur les mêmes bases.
Alors, tout à fait, mais on dit ce qui ne va pas dans le jeu et dans la version précédente, mais il y a aussi des choses qui allaient quand même très bien, il faut remettre les choses à leur place aussi. Ils avaient un très bon scénar, avec une conclusion qui est discutable, mais ils avaient un très bon scénar, ils avaient une très bonne adaptation de l'univers Star Wars et une maîtrise. Parce que
c'est vrai. Oui. Ça, là-dessus, ils ont créé un univers qui est extrêmement... On peut faire plein de choses.
Et qui est un petit peu en marge de ce qu'on est sur Star Wars. C'est très bien interprété. Tu disais qu'ils inventent, mais en fait, ils inventent, mais ils sont contrôlés quand même derrière, parce qu'ils ne font pas n'importe
quoi
non plus.
C'est Disney.
Exactement. Et ça te permet d'avoir une autre vision de Star Wars. Et ça, c'était la fraîcheur du premier jeu, et je pense qu'ils vont les garder dans la deuxième.
Là-dessus, on retrouve les mêmes marqueurs.
En fait, ça a l'air d'être le même jeu, mais en mieux. Et en espérant que tout ce qui n'allait pas a été un petit peu corrigé, ou alors à minima amélioré ou conservé pour le faire d'une manière plus efficace.
On peut voler sur des animaux, on peut gambader, ça déjà c'est il y a une plus-value sur l'univers, beaucoup plus large, on peut faire des choses. Alors vous avez un village là dans la séquence, moi j'ai pas tout vu, sur la partie qu'on pouvait jouer, vous avez un village où on peut ramener des gens qu'on va croiser dans des quêtes parallèles, les amener.
On va customiser un peu le village,
C'est ça. Alors on peut ramasser des graines, on essaie de les planter mais on n'a pas eu le temps de voir si ça poussait, donc j'imagine que ça ne sert pas à rien.
Ça n'est pas resté assez longtemps.
J'imagine que ça pousse.
Mais voilà, mais bon, on en reparlera un petit peu plus longuement dans un prochain numéro de multijoueur parce que ça sort le 28 avril sur toutes les consoles, mais bon, voilà. Donc, est-ce qu'on l'attend ?
Oui, bien sûr qu'on l'attend. C'est sans doute le jeu qui a le plus de force en ce mois-ci, à mon avis.
Ben, on verra. Alors, je vais vous parler d'un petit jeu qui est, lui, pour le coup, déjà sorti, qui est Road 96 Mile Zero, qui est la suite. Alors, on va finir très, très vite dessus, c'était pour vous en parler. C'est la suite de Road 96, qui avait été quand même sacré meilleur jeu au Pégase l'année dernière, un peu à la surprise générale, on ne va pas se mentir. Moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu narratif.
C'est très sympa.
Un peu étrange, où on est dans une dictature. Et donc, l'idée, c'était une bande d'ados qui devait prendre cette fameuse route 96 pour quitter le pays et échapper à la dictature. On retrouve cet esprit, mais dans un jeu, dans une extension qui est très courte, un peu barrée quand même, selon moi.
Moins sage.
Où on fait des choix pareils, donc ça décide du destin de Keito et Zoé. Mais il y a des phases complètement psychédéliques où vous êtes sur une espèce de... Alors, pas de runner, mais pour ceux qui auraient fait Sayonara Wild Hearts, on se retrouve à faire du skateboard.
On les voit là.
On voit à faire du skateboard, à sauter sur des obstacles. C'est complètement barré.
Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente quelque chose de particulier?
Alors, c'est juste un moment où vous êtes dans la tête du personnage et il doit choisir s'il veut être vraiment complètement révolutionnaire ou et donc se rebeller, faire des attentats.
Il fait ça par rapport à un jeu de skate alors?
Non, c'est juste des séquences. Okay. Je conseille la musique qui est absolument fabuleuse dans ce jeu. C'était un peu mon petit coup de cœur.
Mm-hmm. Mais le premier était,
était vraiment sympa. Excellent. Alors, j'ai préféré le premier. L'extension est assez sympathique pour ce côté un peu barré et surtout pour la musique qui est toujours formidable. En plus, c'est français. On va quand même le dire.
Bah, Coco,
mine de rien. Oui. Le jeu signé Dixie Art. Je ne sais
c'est
pas.
C'est frais, ça a l'air c'est assez très frais.
Si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande. C'est très, très court.
On va attendre
4-5 heures.
Oui, voilà. Mais même, moi, mon premier run sur le premier, ça a duré une demi-heure. Je suis morte dans les montagnes.
Tu es déjà morte dans les montagnes à Resident Evil, il me semble.
Ça fait nettement moins peur, un chien, quand même, à le préciser.
Ça fait moins peur, mais vraiment très sympa, avec une belle DA et un bon rythme, et bien écrit. J'avais bien aimé.
Bon, les amis, on arrive au bout de cette émission.
Déjà,
à mon grand regret, ça passe beaucoup trop vite. En plus,
on était
ravis. On peut rester, mais on va être obligé de rendre. Donc, merci à vous, Aymeric et Carole, d'être venus pour cette première avec moi. Ça m'a fait bien plaisir de vous avoir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce premier numéro de multijoueur, qui en appellera bien d'autres, on espère. Et vous pouvez nous retrouver en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de Tech & Co, sur la chaîne YouTube aussi, en replay. Nous dire ce que vous avez pensé de cette première émission. N'hésitez pas, c'est toujours bon à prendre les commentaires. Bon ou mauvais, mais bon, on préfère les bons quand même. Et on se dit à très vite pour un nouveau numéro de multijoueur. Ciao, ciao.